Eh bien, après son passage acclamé par la critique au Festival Transamérique en 2023, la pièce, écoutez-moi bien, je vais le prononcer, Six personnages en quête d'auteuriste, parce que il y a une pièce qu'on connaît qui s'appelle Six personnages pour un auteur de Luigi Pirandello qui date de 1921, mais on a une autre approche dont on va discuter. Donc, c'est une pièce qui est présentée par la compagnie de théâtre Joe, Jack et John, et qui est mise en scène par Catherine Bourgeois. Ça sera de retour au théâtre Espace Libre du 12 au 23 mars. Catherine Bourgeois est cofondatrice de la compagnie de théâtre Joe, Jack et John. Elle est autrice, metteur en scène et scénographe de la pièce en question. Bienvenue à l'émission.
Bonjour, bienvenue,
merci.
Merci,
merci d'être là, oui. Ben, d'abord, Joe, Jack et John. Commençons par ça.
Ça
vient d'où, ça, ce nom-là?
Mais le nom, mon doux, je ne sais pas. Je pense que si c'était à refaire, ça s'appellerait peut-être plus Pierre-Jean-Jacques ou Jackie, Joanne et Ginette, mais je ne sais pas. Mais c'est une compagnie qui date quand même de 20 ans. Mm-hmm. Donc, au départ, on voulait une compagnie qui était un peu l'idée d'une compagnie de déménagement qui déménage et qui fait les choses différemment.
Ouais.
Donc, c'est pour ça qu'on a trouvé trois noms un peu anonymes passe-partout,
ouais,
qui subtilement refont le monde à leur façon en faisant du théâtre.
Donc, Joe, Jack et John.
Voilà.
Ouais. Ben, ça fait compagnie de déménagement,
en
effectivement.
Effet.
au moins, vous n'avez pas choisi le clan Panton.
Non, voilà, une chance.
Votre compagnie, donc, vous l'avez cofondée en 2003. Oui. Donc, on a fêté l'anniversaire l'an dernier, de 20 ans quand même.
Oui.
Pour ceux qui ne connaissent pas Joe, Jack et John, c'est quoi la mission de votre compagnie?
La mission, c'est vraiment de faire un théâtre de création avec des équipes inclusives, c'est-à-dire qu'on travaille avec des artistes qui sont en situation d'handicap intellectuel ou neurodivergent. Puis, ensemble, on crée de manière collective, c'est-à-dire qu'on improvise, on écrit les textes là, à partir de la salle de répétition. Puis souvent, on se penche sur des sujets un peu épineux ou des sujets socialement là, qui ont de l'écho, de la résonance actuellement. Donc, en ce moment, c'est sur des questions un peu woke. Mm-hmm. Dans le passé, on a fait un spectacle qui s'appelait Violette, puis qui était sur l'abus des personnes en situation, des femmes en situation d'handicap intellectuel. On a travaillé aussi la question de la crise migratoire, donc c'est toujours des sujets un peu d'actualité.
Qu'est-ce qui vous incite à inclure justement des personnes en situation d'handicap intellectuel ou neuroatypique?
Ouais.
C'est quand même un défi, là. Qu'est-ce qui vous incite à faire ça?
Mais je crois qu'il y a énormément, tout d'abord, il y a énormément de talents, mm-hmm, d'artistes en situation d'handicap intellectuel, qui ont quelque chose à dire, qui ont une présence particulière, qui ont une énergie, un imaginaire dont on se doute peu. Donc, ce talent-là. Ensuite de ça, je pense que nos plateaux aussi ont avantage à s'ouvrir à différentes formes de corps, de rythme, de langage pour justement amener un questionnement de c'est quoi la norme, c'est quoi être un acteur, c'est quoi faire du théâtre. C'est qu'on porte ce questionnement-là en diversifiant davantage nos plateaux, nos scènes, nos télévisions, etc. Puis je trouve qu'il y a quelque chose d'inspirant dans l'idée de créer des microcosmes. Donc, dans la création, on a des petites équipes qui représentent vraiment différents groupes sociaux. Puis ensemble, on travaille autant la création que le vivre ensemble. Comment on arrive à faire ça, à faire des créations, à se rendre jusqu'au bout, à être accepté au niveau professionnel. Ça donne aussi, si on veut, un exemple, une façon de faire. Comme je crois vraiment à l'idée du battement de l'aile du papillon, qui est après ça un écho. Donc, nous, comme petite compagnie, comme petit groupe, si on est comme 10-12 dans un local, puis on réinvente les façons d'interagir, de créer ensemble, si on défait certaines hiérarchies capacitistes, puis qu'on arrive à créer ensemble, à vivre ensemble de façon constructive, harmonieuse, bien, ça devient des exemples, après ça, qui se poursuivent dans la société là, ailleurs, à travers nos interactions.
On parlait de battement de l'aile du papillon.
Oui.
Je pense à ce qu'on voit à la télévision. On voit de plus en plus de personnages neuroatypiques et qui sont joués par des comédiens, des comédiennes neuroatypiques.
Oui.
Et c'est sûr que ces personnages jouent leur rôle ou jouent un rôle, mais c'est quand même intéressant de voir qu'il y a un peu plus d'inclusion, il semblerait. Je pense que ça se reproduit ailleurs.
Ah, tout à fait, ça se reproduit ailleurs. Puis à Montréal, on a la chance d'avoir l'école Les Muses, mm-hmm, qui est un centre d'art de la scène, donc pour former les acteurs neurodivergents au professionnel, en fait, à devenir interprète professionnelle, soit à la télévision, au cinéma, au théâtre, mais dans d'autres villes canadiennes que j'ai visitées, comme Toronto, Vancouver, cette inclusion-là se fait pas de façon aussi directe et franche parce qu'il n'y a pas d'école de formation. Merci. Donc, les MUS, c'est vraiment aussi le pilier de cette pépinière-là de talent qui peut après ça envahir les plateaux.
Oui, on a déjà reçu justement les gens de cet organisme-là.
De l'école, oui.
De l'école, oui. C'est assez surprenant. Je vais quand même la question se pose. J'imagine qu'il y a des défis parce que c'est sûr que la personne qui arrive avec un certain handicap doit... faut trouver une façon d'adapter, si vous voulez, un peu notre travail, j'imagine?
Bien, nous, on a à l'intérieur même de notre compagnie un poste spécial qu'on appelle répétiteur et... en fait, accompagnateur et coach.
Oui, oui, d'accord.
Mais c'est donc un coach de jeu qui travaille l'addiction, la mémoire, donc qui travaille de façon personnalisée avec les artistes selon leurs besoins. C'est que souvent, on commence à travailler, on cerne les besoins. Est-ce que c'est un peu plus de travail d'addiction, de physique, de mouvement? Est-ce qu'il y a des exercices de réchauffement qu'on peut mettre en place? Donc, de manière quotidienne, les exercices de diction. Puis, ce même poste-là est aussi un poste d'accompagnateur, c'est-à-dire toute la gestion des transports adaptés, etc., l'accueil, les suivis avec les résidences, etc. Donc, tu sais, on a vraiment mis à travers, depuis 20 ans, on a mis en place la structure pour permettre ça.
Maintenant, ça fait 20 ans que vous le faites, vous avez donc une structure. Comment vous vous y prenez, en fait, parce que vous faites de la création, donc c'est un travail collectif aussi. Comment ça fonctionne?
Mais ça fonctionne, ce spectacle-ci qu'on présente en ce moment a commencé d'un peu différemment parce qu'on était en pandémie, donc on a commencé des sessions
cette pandémie, ce qu'elle en a fait, des changements.
Ouais. Mais donc, on a commencé par des brainstorms puis des réunions sur Zoom. Mm-hmm. Mais normalement, on est en salle de répétition, puis on commence à discuter. J'amène un sujet que je trouve comme percutant, pertinent, puis on commence à le discuter, à le disséquer, à en parler. Puis chacun a son point de vue, chacun... Donc, c'est vraiment des équipes inclusives, c'est-à-dire qu'on travaille en effet avec des acteurs neurodivergents, mais on travaille aussi avec des artistes neurotypiques. Ouais. Donc, c'est vraiment ce mélange-là. Puis donc, au fil du temps, il y a des choses qui émergent, il y a des scènes qui naissent, on les filme, on les retranscrit. Au fil du temps, c'est vraiment un long processus en tenoir, mais il y a des personnages aussi qui commencent à vivre d'une scène à l'autre, d'une impro à l'autre. Donc, voilà, c'est ça qu'on fait, qu'on met ensemble, qu'on travaille aussi avec une dramaturge pour essayer de ressortir le filon narratif, travaille l'écriture, puis ensuite de ça, éventuellement davantage les costumes, le décor, etc. Donc, c'est vraiment un processus d'écriture en équipe, mais sur de longues haleines, puis qui s'autodéfinit au fil de la marche qu'on fait ensemble. Donc, on ne sait pas quel sera le prochain pas, mais on marche ensemble doucement. Voilà, c'est une façon de faire qui est très, très organique et respecte aussi le rythme de travail là, de l'équipe.
Donc, Joe, Jack et John, on a choisi cette fois-ci une thématique « woke », pour reprendre les mots qui ont été utilisés.
Ouais.
« Woke » est un mot très chargé.
C'est dangereux, danger,
oui. Pour les gens qui écrivent dans le Journal de Montréal, je pense que c'est la chose la pire qui peut nous arriver.
Oui,
mais pour
oui.
le monde normal, c'est peut-être pas si grave que ça, mais on en parle donc dans cette pièce-là.
On en parle, mais en fait, ces questions-là qui viennent, si on veut, moi j'ai donné l'étiquette « woke », mais ces grandes questions-là de l'appropriation culturelle,
oui.
du consentement, de la légitimité, des privilèges, etc., c'est des questions qui se posent parce qu'on essaie d'avoir une société plus inclusive, plus équitable. Donc, on est dans cette grande marche-là, puis il y a des voix qu'on entend maintenant qu'on n'entendait pas il y a 20 ans, il y a 50 ans, puis qui réclament une juste part aussi à la société. Puis, veux pas, Joe, Jack et John ont fait partie de ces gens qui ont réclamé une place, leur place au soleil aussi, au niveau, dans le milieu théâtral dans les dernières années. Puis, donc, à travers ces questions-là de davantage d'équité puis d'inclusion, il y a des chocs qui se créent. Puis, C'est ces zones-là qu'on voulait un peu aller fouiller. Parce que, mine de rien, la conversation, même si elle veut tendre vers plus d'inclusion, elle est souvent très exclusive. Le vocabulaire change rapidement. Il y a toute une question d'intention, de connaissance qu'il faut avoir, sinon on est vite catégorisé dans d'autres choses. Donc, il y a quelque chose d'un peu apeurant à discuter de ces questions-là. Donc, on a voulu enlever tout le joug de la peur. On a voulu démocratiser, créer de l'accessibilité intellectuelle pour qu'on réellement, on se pose des questions. Qu'est-ce que l'appropriation? Puis comment ça peut fonctionner, ne pas fonctionner, faire mal, blesser, etc. Même chose au niveau des questions de privilège. Qu'est-ce qu'un privilège? Puis, ça a été fort intéressant comme processus parce que ça a permis à tout le monde de s'entendre puis de s'écouter là-dedans puis de voir que souvent, on n'avait pas du tout les mêmes conversations, en fait, les mêmes références ou les mêmes connaissances. Puis, dans ces chocs-là, on a créé des scènes. Donc, par exemple, il y a la notion de privilège qui, pour nous, pour une des actrices en début de processus, elle me dit, un privilège, ben c'est quelqu'un qui a beaucoup de difficultés dans la vie a plus de privilèges. Donc, quelqu'un qui a beaucoup de difficultés peut avoir accès au transport adapté, une intervenante, etc., etc. Tandis que les gens qui ont moins de difficultés, ils n'ont pas tous ces privilèges-là. Là, je trouvais ça intéressant comme, comme notion, comme définition du privilège. Je me disais, OK, intégrons ça dans l'écriture, comme pour après ça que ça s'entrechoque un peu. Même chose par rapport à la question de l'appropriation. La majorité de mes collègues neurodivergents viennent au théâtre pour, en fait, s'approprier un autre rôle que le leur. Parce que l'étiquette handicapée, oui. Neurodivergence, est tellement lourde à porter. Puis elle est imposée par une société qui, souvent, c'est pas ressenti de l'intérieur. Donc, on vient au théâtre pour jouer le voisin, pour jouer un super-héros, un cow-boy, pour jouer plein d'autres choses, pour jouer des vécus qui sont pas les nôtres. Donc, dans cette mouvance-là d'un théâtre davantage dans l'autofiction, dans le documentaire, où est-ce que la légitimité de l'artiste est remise en question par rapport à prendre une parole qui n'est pas la sienne, c'est sûr que nous, on est un peu comme un chien dans un jeu de quilles par rapport à ça, parce que la majorité des artistes avec lesquels on collabore veulent jouer d'autres choses que ce qu'ils sont.
Puis ce qui est intéressant, c'est que des artistes qui sont neurotypiques,
oui.
Pour reprendre l'expression, peuvent jouer des rôles neurodivergents. Je pense à l'exemple qui me vient en tête, c'est Tom Hanks qui avait oui. joué une personne qui souffrait de... pas souvent qui était atteinte du spectre de l'autisme. Et alors, pourquoi une personne neurodivergente ne pourrait peut-être pas jouer un rôle neurotypique?
On les a vus, les Rain Man, oui. les I Am Sam, tous ces films-là, on en a parlé aussi en création. Je pense que c'est des choses qui se font de moins en moins que de jouer dans la neurodivergence. Là, dans, oui. Mais en même temps, ça se fait encore. Ça se fait encore sur les plateaux, sur les scènes de théâtre à Montréal. J'en ai vu quelques exemples l'année passée. Donc, c'est encore là. Donc, nous, on se pose la question jusqu'où on va? T'es là-dedans, puis voilà. C'est que c'est des questions d'actualité chaudes, mais en même temps, c'est des sujets lourds, mais nous, on s'attaque à ça avec vraiment un esprit comique, parce que on en a fait une comédie. On rit jaune, mais on rit beaucoup.
Mais parfois, rire, ça fait réfléchir.
Ah oui, là, c'est un rire réflectif qu'on propose, mais c'est pas, on n'a pas une approche lourde pour ce sujet-là, qui est souvent abordé de façon un peu intense et lourde.
Parlons spécifiquement, donc, 6 personnages en quête d'autorice.
Oui.
Ça raconte quoi?
Donc, ça raconte l'histoire, c'est une troupe de comédiens, une troupe d'acteurs, 5 acteurs qui se retrouvent en salle de répétition puis essayent de créer leur nouveau spectacle. Puis là, ils n'ont pas le droit de dire ce mot-là, ils peuvent pas faire ça, ils peuvent pas s'approprier, ils peuvent pas... T'as toutes les zones, en fait, le terrain de la création semble miné. C'est le reflet de notre société où est-ce qu'il y a plusieurs sujets qui sont chauds, donc qu'on peut pas aborder. Puis, donc, à travers ça, il y a toutes sortes de conflits puis comme une intervention un peu spectaculaire à la fin d'une licorne qui débarque. Donc, c'est pour vous montrer la côté un peu de l'autodérision et que finalement, parce qu'il y a une licorne qui vient auditionner pour eux, ils vont finalement pouvoir faire le spectacle de licorne qu'ils n'avaient pas le droit de faire parce qu'on ne peut pas s'approprier le vécu d'une licorne, etc. Donc, vous voyez là un peu la mécanique. Voilà.
Ça pose à réfléchir. Et quelque part, parce qu'on parle de cette pièce 6 acteurs, en fait, c'est 6 6 personnages en quête d'auteur,
oui.
1921. Est-ce oui. qu'on revisite un peu cette pièce-là de Luigi Pirandello?
Il y a des extraits de Pirandello qui sont faits en audition,
okay.
Donc au courant de la pièce. On parle aussi un peu de Pirandello, tout ça, pour en fait, un peu par la bande. Mais l'idée, en fait, à la base, dans la pièce de Pirandello, la pièce originale, c'était une famille qui débarquait sur un plateau de répétition puis qui disait aux acteurs... Vous êtes en train de jouer, de pratiquer, d'essayer de faire, de jouer un drame, mais c'est pas vraiment légitime. Nous, on l'a vécu, le drame, nous, c'est notre drame, donc on devrait être ceux qui incarnent le drame sur scène, t'sais. On est la famille, on est les... Donc, Pirandello posait la question, tu sais, de est-ce que le théâtre est vraiment capable de représenter la réalité de la vie, la vérité de la vie? Donc, c'est un peu la question. Donc, qui a le droit de jouer quoi? Est-ce que c'est les interprètes qui jouent le drame ou c'est la famille qui devrait jouer le drame? C'est comme une des sous-questions qu'on s'est approprié pour se poser la question de qui peut jouer quoi sur nos scènes aujourd'hui.
Et puis, pour que les gens soient clairs, on parle de 6 personnages. Alors, c'est CIS.
CIS comme né personnage.
Voilà.
Donc,
oui, oui.
CIS,
parce qu'on on connaît l'expression cisgenre versus transgenre. Alors, on est vraiment... Ouais, ça a des petites connotations
woke. On va le dire.
En quête d'autoriste, hein, qui est le terme non-genré.
Oui, voilà.
Il n'y a rien de mal à être woke. Ici, cette émission-là, on n'interdit pas ça. On n'est pas dans ça. On peut voir cette pièce donc...
À partir de demain,
oui, à partir
le 12 mars jusqu'au 23 mars, on a toutes sortes d'initiatives d'accessibilité, c'est-à-dire qu'on a des représentations décontractées, 15 et 16 mars. Ah. On a des représentations...
Décontractées, on a rapidement...
Relax, donc relax, c'est-à-dire pour des personnes qui ont un tic nerveux, un enfant, toutes sortes qui sont... Donc voilà, l'espace est plus ouvert, on peut faire du bruit, rentrer, sortir, c'est chill.
Oui.
Puis sinon, la semaine prochaine, on a quelques représentations aussi qui sont offertes en audio-description pour un public non-voyant, malvoyant.
On voit de plus en plus ça, d'ailleurs, même dans les grandes troupes de théâtre.
Oui, au théâtre du Redevoir,
entre autres. Oui, on offre, je pense, sur le téléphone, on peut suivre.
Oui, avec des écouteurs, puis il y a quelqu'un en direct qui décrit les actions.
Wow.
Donc, on peut entendre les acteurs parler, puis dans les petites pauses, on entend la description des mouvements.
Bon, notre société évolue un petit peu.
Oh oui! Oh oui!
Un petit peu à la fois. Ben, merci beaucoup, Catherine Bourgeois, d'avoir été là. Puis, donc, on te répète du 12 au 23 mars au Théâtre L'Espace Libre. La pièce s'appelle 6 personnages en quête d'autoriste.